cobas.com. Rencontre par Marc Sisman.
Tessier-Ducrot.
Bonjour Marc.
Philippe Tessier-Ducrot, vous êtes ingénieur du son. Alors c'est toujours un mot évidemment que tout le monde connaît, mais parfois on ne sait pas toujours tout ce que ça comprend. On va sans doute en parler. Vous êtes un ingénieur du son, on pourrait dire, avec un CV assez impressionnant, assez long, tant en termes de nombre d'expériences, d'albums, de rencontres, de voyages, même stylistiquement. Je ne vais pas citer l'intégralité des gens qui ont croisé votre route, ou que ça va de Pierce Faccini à Boyan Z, Moriarty, Eric Lenini, Lojo, Louis Clavis, Duhoud, Michel Portal, Rodolphe Burger, Guillaume de Chassis, Vincent Segal, etc., etc. Je pense que la liste, je ne sais pas si vous avez listé un peu la totalité, mais c'est assez impressionnant, je pense.
Il y a pas mal de personnes, en effet. Ouais. Non, je n'ai pas listé le nombre. Mais ça représente quand même, ça représente une trentaine d'années de travail, donc c'est un peu normal aussi. Hein. On doit arriver à un millier d'albums.
Quand même.
Oui, c'est pas mal.
Alors la question qu'on a toujours envie de se demander, c'est comment on en arrive à devenir ingénieur du son. Est-ce que quand vos copains, quand vous étiez petits, voulaient être pompier ou vétérinaire, vous déjà vous étiez en train de chasser des sons avec votre petit magnétocassette, ou est-ce que c'est venu plus tard?
C'est peut-être venu un peu plus tard. J'ai aussi voulu être pompier, un peu vétérinaire. J'ai voulu être cosmonaute aussi, parce que quand j'étais petit, il y avait Apollo qui atterrissait sur la Lune pour la première fois. Donc j'ai regardé ça comme tous les gosses de mon âge. Et puis j'ai fait de la musique. Je suis venu à l'ingénierie du son par la musique. Donc j'ai pratiqué le piano, j'ai pratiqué la batterie. J'avais mon petit groupe dans la cave, le truc un peu habituel. Et puis il y a des trucs, je me suis posé assez vite la question, j'aimerais bien faire de la musique, mais peut-être pas forcément en étant musicien, parce que je me suis tapé énormément de déménagements à la cave et beaucoup de mecs qui sont jamais venus. Donc ça m'a un peu fatigué, et je me suis dit, il faut peut-être voir les choses sous un autre angle. Et puis j'aimais bien aussi, quand j'étais petit, démonter mon électrophone, le regarder tourner, même le fabriquer en carton et le tourner. Donc j'étais déjà débile un peu à ce niveau-là.
Stylistiquement, vous écoutiez quoi à cette époque-là comme genre de musique?
Alors, quand j'étais enfant, j'avais une famille et des parents qui étaient plutôt mélomanes calmes, mais il y avait quand même... ma grand-mère était pianiste, donc là, c'était quand même le culte du classique, avec une relative ouverture d'esprit, mais il ne fallait quand même pas trop brusquer. Donc, chez mes parents, il y avait beaucoup de disques classiques. J'ai entendu chez eux, la première fois, les Beatles. Ils avaient Abbey Road, Sgt. Pepper, comme beaucoup, j'imagine, de gens de la trentaine de l'époque. Donc évidemment, moi je suis venu à la batterie par Ringo Starr en fait. Hein. Je m'amusais à taper sur des trucs de skip en écoutant Abbey Road. Mais sinon, beaucoup de classiques. Ce qui est drôle, c'est que j'ai fait beaucoup de disques de jazz, alors qu'à l'époque, franchement, pour moi, c'était un truc que je connaissais pas du tout. Mais je suis venu par la musique. Et puis, je complète si vous voulez. Dans ma famille, ils sont plutôt des intellectuels qui font des longues études. Donc, normalement, j'aurais dû faire une école. Dans ma famille, ils sont de tradition plutôt polytechnicienne et narque. Et un jour, j'en parlais à mon père, il m'avait formellement déconseillé de faire ça. Il m'avait dit, vu ta personnalité, tu vas avoir que des ennuis. Pourquoi tu ne travaillerais pas sur un métier dans la musique? Et en fait, c'est lui, par hasard de conversation, qui m'a dit, tu vois, le métier d'ingénieur du son. Et tout d'un coup, j'ai réalisé, je me suis dit, mon Dieu, mais je n'avais jamais pensé à ça.
Donc la captation, avoir conscience de ce que représente une captation de son, c'est quelque chose qui est venu à ce moment-là, ou est-ce que déjà le mélomane qui était en vous faisait déjà attention, faisait la part des choses quand il mettait un album sur sa platine? Est-ce qu'il disait, est-ce qu'il était impressionné par tel son plutôt que tel autre, ou c'est venu progressivement?
Il y a des trucs, évidemment, à l'époque, je dirais en 73, 72, quand j'avais 12-13 ans, c'est Non, j'étais un peu plus jeune, en fait. Allez, pas vieillir. 75, il y avait... Bon, les Beatles venaient de se séparer. Il y avait eu le dernier disque qui était Abbey Road, qui est quand même, d'un point de vue sonique, absolument remarquable. Ça, évidemment, j'y étais sensible. Je sentais bien, je ne savais pas pourquoi, mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose au niveau du haut-parleur qui se passait, qui n'était pas pareil que quand j'écoutais Yes, qui a toujours sonné merdiquement, quand même, globalement. Faut quand même... Bon, sauf les tout derniers. Mais c'est quand même... Bon, ce n'était pas la même... j'ai entendu Dark Side of the Moon, qui est encore aujourd'hui n'importe quel ingénieur du son, vous le dira, enfin qui met une grosse claque, quoi, qui est toujours d'actualité. Donc je sentais ça sans trop savoir pourquoi, en vérité. Je rattachais pas ça au travail pur de l'ingénieur du son. C'est après, très vite après, qu'évidemment, j'ai commencé à me poser des questions. Quand j'ai commencé mes études à Louis Lumière, où là, j'avais des camarades de promotion qui étaient vachement plus versés dans ces choses-là que je ne l'étais. Donc ça m'a l'aspect beaucoup plus construction du son. Voilà.
Est-ce qu'avec la trentaine d'années de carrière, comme vous avez dit, et les milliers d'albums, est-ce qu'on arrive à avoir sa propre définition de ce qu'est un bon ingénieur du son ? Est-ce que ça existe ? Est-ce qu'on a envie de dire c'est tellement proche de la personnalité ? Alors évidemment, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Il y a votre personnalité, la personnalité de l'ingénieur du son. Et il y a un autre élément, c'est la personne avec laquelle vous travaillez, le groupe, le musicien, etc.
Écoutez, donc
à quel endroit se trouve, j'allais dire, l'ingénieur du son ? Est-ce que c'est un passeur ? Est-ce que c'est un lien ? Est-ce que c'est il y a un côté psy également par rapport aux musiciens ? Est-ce que c'est tout ça en même temps ? Est-ce que c'est autre chose ?
La question est vaste, je vais tenter d'y répondre. Je dirais d'abord en premier, le plus beau compliment qui m'a été fait, qui résume un petit peu votre question, c'est un compliment qui m'a été fait par le magnifique musicien qui s'appelle Magic Malik, qui l'a fait dans une pochette. Il m'a dit, il a écrit dans les remerciements, il a dit « Merci à Philippe d'avoir été à la fois le maître et le serviteur ». Pour moi, c'est ça, un bon ingénieur du son. Le maître, non pas dans le sens « tous au garde à vous », mais dans le sens « je maîtrise ». Et en même temps, je sers. Ça, c'est un aspect qui me semble important. C'est-à-dire, je pense que c'est un métier où on est laid back. Moi, j'ai un certain goût pour... je préfère les mythes aux stars, je préfère les gens de l'ombre. C'est pour ça que j'adore, quand je vois un documentaire sur Stanley Kubrick, par exemple, entendre parler de son chef-op. Et de savoir que le chef-op a participé de telle manière que tel cinéaste travaille avec tel monteur. Moi, j'aime bien être cette personne de l'ombre. Alors après... je pense qu'une carrière intéressante, en tous les cas, par rapport à ma vision, c'est si possible de travailler sur les musiques qu'on aime écouter, et si possible avec des gens qu'on aime côtoyer, et si possible avec peut-être rajouter à ça une vision un peu éthique, philosophique et politique.
Est-ce qu'il y a parfois, j'imagine, dans les centaines et les milliers d'enregistrements que vous avez fait, les centaines et milliers de rencontres, il y a parfois, évidemment, il y a l'humain qui rentre en jeu, vous l'avez
énormément.
Dit, c'est essentiel. Il y a le côté effectivement d'être, vous avez dit tout à l'heure, maître et serviteur, donc il y a le côté d'être au service.
Oui.
Quand on a même sa propre vision du son, comme vous l'avez dit, d'avoir donc sa personnalité, j'imagine qu'à chaque fois il y a toujours bras de fer et peut-être un terme un petit peu trop violent, mais il faut trouver, j'allais dire, le juste équilibre entre garder son éthique, amener sa propre, mais en même temps être à l'écoute parce qu'effectivement on est là pour servir une vision musicale, une écriture. On doit après, évidemment, transcrire. Est-ce que c'est difficile ? Comment ça a évolué, justement, dans votre carrière ? Est-ce que quand vous êtes lancé dans cette carrière professionnellement, vous avez eu des difficultés, par exemple, justement ? Qu'est-ce qui vous a aidé à progresser, justement ?
L'expérience et l'âge, déjà. L'expérience et l'âge. Qui sont globalement, me semble-t-il, sans vouloir faire des grandes généralités, mais plutôt souvent en termes de caractère et d'évolution du caractère, à qui s'interroge une bonne chose. Petite distance. Aller plus droit à l'essentiel. Et puis c'est vrai que bon, moi au début j'étais un peu, je pouvais être un peu énervé, je me suis calmé, tant mieux pour moi, tant mieux pour les autres. Plus grande capacité d'écoute, plus grande capacité de compréhension, beaucoup de problèmes égocentriques réglés, aussi bien vis-à-vis de la vision que j'ai de l'artiste en face de moi que de moi avec moi-même. C'est qu'au bout d'un moment je suis beaucoup plus serein. Beaucoup plus serein et aussi beaucoup plus expérimenté. Donc ça fait que je vais pouvoir comprendre beaucoup plus vite, plus cultivé. Enfin, ce que les années vous apportent, hein, avant la dégradation finale, quoi.
Comment vous avez... Alors donc il y a cette évolution que vous venez de décrire,
oui.
Et qui se fait en parallèle avec l'évolution des techniques, la technologie, oui. Etc. En même temps, qui est aussi quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire même j'imagine de passionnant. À quoi ressemblait la profession et avec quoi vous travailliez durant vos premières années ?
Bah alors moi, si vous voulez, c'est un peu particulier parce qu'en fait, quand j'ai commencé dans ce métier, on était encore en analogique, mais ça a été très rapidement la fin de l'analogique, c'est-à-dire que j'ai assisté à la mutation de la bande analogique vers les premières générations de machines digitales, mais avec cette idée qui était quand même très souvent répétée par nos aînés, qui à mon avis était pas entièrement vraie, que le digital allait sauver le monde. Il y avait quand même cette idée, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand moi quand j'étais petit par exemple, je me rappelle, les disques, il fallait absolument avoir un DDD. C'était, ouais. Si tu avais un AAD, tu étais un crétin fini, c'était de la daube, c'était même pas la peine. Ouais. Aujourd'hui ouais. C'est le contraire, enfin, c'est amusant, il y a même un retour au vinyle. Donc il y a toujours eu, à mon sens, besoin dans les évolutions technologiques liées au son, il y a toujours eu besoin de laisser passer la vague majoritaire et de réfléchir un tout petit peu en minorité. Ça, c'est un truc que j'aime bien. C'est-à-dire ne pas forcément tout accepter comme étant... Et ça s'est avéré vrai. Du reste, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément de disques qui sont réédités en vinyle parce que les gens les connaissent sans qu'ils passent par les systèmes de conversion de l'époque, etc., etc., etc. Mais j'ai connu effectivement le long glissement, puis après l'abandon de la bande. J'ai connu le numérique super support de bande, donc destructif. Après, il y a eu le POM-C, POM-V qui est apparu avec le disque dur, les systèmes globalement informatiques, qui ont amené des trucs super et qui ont amené aussi leurs limites.
Comment toutes ces évolutions, voire révolutions techniques, ont impacté, comme on dit, pour utiliser un mot bien laid, votre vision personnelle du son, de la prise de son, etc. Alors, ce n'est qu'un outil, mais ça a quand même, j'imagine, un impact quand même sur votre vision personnelle ou pas ?
Ah, bien sûr, je reste quand même vachement attaché à la lutherie sonique, si je puis me permettre, d'une certaine époque. Évidemment, je suis équipé avec tout un tas de systèmes informatiques. Il n'empêche que il y a par exemple aujourd'hui des systèmes qui émulent, simulent certaines machines. Moi, j'aime bien avoir la vraie machine, hein. J'aime bien pour de la vraie. Aussi parce que j'ai vérifié que ça marchait mieux. Et puis j'aime bien aussi encourager les gens qui continuent à mouiller la chemise pour faire des belles machines, parce que ça risque d'être un peu en voie de disparition. Donc si je peux un peu aider, comme ils m'ont aidé, je le fais. Donc je suis pas... maintenant, voilà, j'ai 7 ordinateurs à la maison. Mais je reste... Et je pense que du reste, les ingénieurs du son, si vous interrogez des ingénieurs du son qui sont attachés à une certaine idée du son, ils vous parleront beaucoup de certains trucs analogiques, de lampes, de véritables machines qui pèsent lourd, probablement.
Sur votre vaste CV, quels sont dans les premières années où vous avez travaillé, quels sont les premiers projets qui ont été, ou à l'arrivée, vous avez été assez fier du résultat, qui restent pour vous des sortes de niveaux, des paliers que vous avez l'impression d'avoir quand même réussi à achever, soit évidemment artistiquement, humainement et techniquement surtout?
C'est une question amusante me concernant, parce que moi je suis un mammifère lent. Et très sincèrement, je me suis retrouvé assez vite dans des situations imméritées. En fait, quand je regarde, je me suis retrouvé à gérer des trucs que peut-être j'étais pas au niveau pour le faire.
Mais quel type d'artiste ou quel genre de projet?
Il y a eu un moment, j'ai travaillé dans un endroit où on faisait beaucoup de musique ancienne. Où j'ai croisé des gens comme les Sacqueboutiers de Toulouse. Je me rappelle, j'ai travaillé avec un groupe qui aujourd'hui a dû disparaître. Ils existent encore, je crois. J'ai regardé un groupe qui faisait de la musique ancienne, qui s'appelait Tréfontaine, et c'était un duo de gars avec de la flûte et vielle à roue. Alors déjà, la vielle à roue, quand c'est bien enregistré, mais alors qu'en plus, c'est limite, c'est quand même un peu agresse. Non, avant de pouvoir avoir un certain contentement sérieux et sans la jouer fausse modestie à deux balles, je pense il m'a bien fallu une dizaine d'années. Parce que j'ai pas été assistant très longtemps. Je suis parti aux États-Unis, je suis revenu. Il y a tout un tas de trucs liés à l'assistanat qui m'a gonflé. Donc j'ai eu la chance et la malchance en même temps de pas forcément avoir un apprentissage sur le terrain aussi important qu'il aurait fallu. Mais en même temps, ça a été peut-être une chance aussi. Donc je me suis retrouvé beaucoup à essayer de comprendre pendant très longtemps pourquoi je croyais que ça sonnait pas. Quoi. Et ça a été... long fut le chemin.
Vous avez cité tout à l'heure deux albums en, un peu en sorte de maître étalon, en parlant d'Aberon et Dark Side of the Moon. Est-ce que justement, dans ces débuts de votre parcours, vous aviez comme ça d'autres, des disques, des prises de son, des choses qui étaient un peu des doudous, des sortes de Graal, qu'on n'essayait peut-être pas de copier, mais qui vous inspiraient énormément?
Alors, pour quelqu'un comme moi, et pour beaucoup d'ingé-sons qui ont en tous les cas travaillé dans l'acoustique, on a évidemment eu... on a été marqué parce que les productions de Manfred Eicher, et c'est difficile de passer un moment sans lui rendre hommage. Après, alors on en a dit tous ceci, oui, trop ceci, pas assez cela. Bon.
Il a créé un style.
Style. Et je crains qu'il ne faille attendre avant longtemps que quelqu'un puisse dire on va faire du jazz ECM ou on va faire du classique de gramophone, j'ai pas entendu encore.
La preuve, c'est que maintenant on dit ça fait ECM.
Absolument.
Ça fait plein de choses.
Quand on veut même décrire un style musical.
C'est très ECM, exactement.
Oui. Donc ça, c'est évidemment une approche qui nous a. Il faut dire aussi qu'il y avait une raison à ça. C'est quand on écoutait de la musique chez soi. Ce qui est mon cas, parce que je fais partie des ingénieurs du son qui écoutent de la musique chez eux. Je dis ça, c'est sans méchanceté, mais je sais que c'est rare. On m'a dit que c'était rare. On se dit, les plombiers, peut-être qu'ils ne plombent pas chez eux. Hein. Bon, il y avait un truc aussi, c'est que les disques vinyles, avant le CD qui était fait par ECM, indépendamment de la prise de son, étaient vraiment très, très bien gravés. Et la qualité des gravures était exceptionnelle. Donc déjà ça, c'était absolument remarquable. Bon, sinon, il y a eu beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'on a quand même été pas mal habité à une époque par cette esthétique. Tout d'un coup, les réverbes qui correspondaient aussi à l'arrivée du numérique. En fait, finalement, il y avait cette possibilité d'en mettre plus. Aujourd'hui, souvent, il y a des trucs que j'ai aimés à l'époque que je trouve absolument inécoutables. Aujourd'hui, qui était, je pense à l'album Toutou par exemple. Quand il est sorti, quand j'avais avoir 22 ans, donc j'étais dans mon apprentissage, ça m'avait mis une claque. Aujourd'hui, quand j'entends les je trouve ça.
C'est très, bon, très années 80, quoi.
Hyper années 80. En même temps, bon, c'est génial. Ouais. Bon, très bien. Mais il n'y a pas que du bon les années 80. Il y a des trucs super, mais bon, je suis quand même. Plus dans le 70, hein. Je préfère quand même, hein. Je préfère écouter Tom Waits de l'époque ou écouter des groupes, puis j'adore des gens comme Pete Jarvey par exemple aujourd'hui, je trouve que ça, j'adore cette esthétique sonore, c'est-à-dire, voilà.
Comment vous avez vécu, parce que c'est vrai que si on regarde l'intégralité de vos projets, même si effectivement, comme on l'a dit, il y a du 360 degrés, ça va du jazz, le world, l'électro, la chanson, etc., il y a quand même un gros corps, on va dire, jazz.
Oui.
Vous avez dit au début que finalement le jazz n'était pas spécialement votre musique de chevet quand vous avez commencé, j'imagine que depuis ça a un peu changé.
Oui.
Mais
oui.
Comment justement on le vit ça quand on se retrouve? Alors évidemment, il y a une particularité du jazz, c'est qu'il y a même, il y a énormément d'instruments acoustiques, mais il n'y a pas que ça, mais il y en a quand même beaucoup. Comment justement ça influence votre approche du son, justement, cette capter des instruments acoustiques, la quête, la recherche permanente à titre personnel, en parallèle avec l'envie de l'artiste et du musicien?
Déjà, il faut dire un truc, je dirais de façon plus générale, avant de répondre plus précisément. Moi, en tant qu'ingénieur du son, je pense qu'on est pas mal comme ça, on finit toujours par aimer ce sur quoi on travaille. Dieu merci. On finit. Moi, je sais que quand je fais un disque, d'abord, je suis un peu comme à ce niveau-là, je suis assez content parce que j'ai toujours autant de plaisir à entendre un mec remuer une feuille devant un micro. Je trouve ça magique. J'entends cette espèce de définition, ça m'éclate toujours autant. Ça, c'est une chose. Après, par rapport. Donc, on finit toujours par aimer, de toute manière, et puis on a toujours envie, on se dit, on va faire le meilleur disque du monde. Bon, alors, pour ce faire, et après, alors au début, évidemment, le jazz, pour moi, c'était plus facilement des trucs très classiques, jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui était un prof de maths, qui a eu une bonne influence sur nous, qui était un mélomane incroyable, et qui un jour m'a dit, tu sais, si t'aimes pas Coltrane, je te plains parce que tu loupes un truc vraiment super. Ah, ça m'a carrément, je me suis dit, je vais vraiment faire un effort. Et alors, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre un petit peu plus les choses improvisées. Il se trouve que je vis en Europe et pas aux États-Unis. Donc, il y a ce style européen quand même qui est très créatif en termes d'improvisation. Après, on peut discuter à deep sur ce qui est de l'ordre du vrai, de l'escroquerie, bon, évidemment, mais enfin quand même. Et puis, j'ai apprécié l'attitude aussi, un peu libertaire. J'ai apprécié le rapport aussi... pas forcément la volonté d'être le numéro un international, le côté un peu en résistance que ces gens-là ont et que j'aime bien avoir aussi dans le disque. Mais ça s'est fait petit à petit. J'ai pas de scoop remarquable, en fait, comme ça, là, tout de suite, par rapport à la question. Hein. ça s'est fait petit à petit, en se plantant gravement, hein, en ne comprenant rien, avec des big bands des fois. J'ai commencé une fois avec un big band dans la région de Toulouse, où j'étais absolument pas au niveau, dramatique. Mais Dieu merci, je l'ai compris vite, j'ai essayé de rectifier le tir, quoi. Et on apprend aussi énormément de ce type d'erreurs. Heureusement, j'étais dans une situation où je pouvais me... C'était pas trop impliquant. Enfin, j'avais pas affaire à Quincy Jones avec une sortie internationale à Hollywood, quoi.
Est-ce que vous aviez des captations d'instruments qui vous tenaient plus à cœur que d'autres ? Parce que vous avez parlé de... Vous jouiez de la batterie sur vos...
Bah, moi, je suis un peu batteur.
Voilà, donc...
Donc, j'aime bien... Non, moi, j'aime bien... C'est vrai que j'aime bien... J'aime bien les prises. J'aime tout. Le piano, c'est intéressant. Le piano, c'est un vaste truc. Y a des fois des mecs qui me disent « Comment tu fais pour enregistrer un piano ?» Je suis absolument incapable de répondre à cette question. Par exemple, je relie toujours la prise de son à la musique dont il est question, à l'environnement, au tempo, à l'instrument, au pianiste. J'ai absolument pas de solution. J'aime bien essayer de trouver des nouveaux trucs. Ce qui me plaît, c'est qu'à l'arrivée, ça me semble sonner, qu'il y a une certaine fluidité, une certaine évidence. Et pour ça, j'ai pas de recette.
Mais comment ça se passe concrètement ? Alors, vous avez un peu, j'allais dire, deux types de clients, entre guillemets. Il y a ceux avec lesquels vous travaillez sur la longueur, ça doit être intéressant. Je pense pas en Paboyan Z, mais il y en a d'autres où vous collaborez ensemble depuis plus de 10 ans. Et après, il peut y avoir les nouveaux, j'allais dire, qui arrivent. Donc, on parlera peut-être de ceux sur la longueur dans un deuxième temps, mais dans un premier temps. Quelqu'un vient vous voir, comment ça se passe ? Vous vous immergez dans sa musique, vous écoutez ses disques précédents, et ensuite vous discutez avec lui. Est-ce qu'il y a une sorte de méthode ?
Bah. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce serait quand même malheureux qu'il n'en soit pas ainsi, compte tenu du fait que ça fait quand même 30 ans que je traîne ma caisse. La plupart des gens qui viennent me voir, c'est qu'ils viennent me voir parce qu'ils savent ce que je fais. Et s'ils viennent me voir, c'est parce que ce que je fais leur semble correspondre. Après, il y a des projets où on vous sollicite pour l'ensemble du projet, des projets où on vous sollicite pour uniquement faire des mixages. Moins souvent, en ce qui me concerne, pour faire des prises qui vont être mixées ailleurs. Moi, je suis très, très friand de rencontres. Quand quelqu'un me contacte, je me débrouille pour qu'on ait un rendez-vous très rapidement chez moi. Je rencontre les gens. Bon, sauf si j'ai affaire à quelqu'un qui m'a l'air qui m'emmerde déjà au bout de 2 minutes. Mais je veux dire, enfin, que dis-je, 30 secondes. Mais sinon, je fonctionne comme ça. J'essaie de comprendre ce qu'il attend de moi. J'essaie de comprendre s'il attend de moi quelque chose qui est moi ou s'il attend de moi tout simplement une prestation qui soit si possible le moins cher possible. Ça se présente aujourd'hui. On est dans un contexte économique particulier. Donc évidemment, vous savez, l'époque où quelqu'un vous disait « qu'est-ce que tu utiliserais comme micro pour faire ça ?» Aujourd'hui, on vous dit « t'es sûr qu'on a besoin de ça ?» C'est un peu ça. Donc, si vous voulez, moi, je suis suffisamment passionné pour mon métier pour continuer à avoir des beaux micros, des belles choses. Bon, c'est vrai qu'après, si j'ai affaire à quelqu'un qui s'en contrefou, ils viennent pas me voir.
Quelle est votre démarche à vous ? C'est-à-dire que vous, une fois qu'à première vue, le premier contact est plutôt bon, soit vous connaissiez déjà la musique passée, que vous trouvez intéressante, passionnante, etc. Parce que vous avez dit qu'à première vue, en général, vous évitiez de travailler sur des projets qui vous...
Bah, disons qu'en général, les gens qui viennent, qui me sollicitent, ils me connaissent un peu. Hein.
Donc concrètement, ensuite, il y a un échange.
Je rencontre la personne. Il m'arrive de passer... D'abord, je prends le temps. Ce n'est pas genre j'ai le temps, j'ai pas le temps. Je prends le temps. Je prends le temps de rencontrer la personne, elle vient chez moi. Ça nous permet déjà de voir si on peut cohabiter 27 secondes ensemble sans se foutre sur la gueule, c'est déjà pas mal. Et puis, je parle avec elle, savoir d'abord mieux comprendre pourquoi la personne est venue me voir. Et ensuite, j'écoute ce qu'ils ont fait. J'essaye toujours de trouver le bon équilibre entre la vision artistique, le respect de la vision artistique de la personne tout en apportant ce que moi je peux apporter qui me semble être favorable et le versus économique. C'est-à-dire que c'est pour ça que je ne suis pas foncièrement attaché à un lieu. J'essaye de rester libre. Je peux faire un disque dans un énorme studio, je peux faire un disque dans un petit studio, je peux aller dans la cuisine d'un mec si besoin est. Dès lors que je mesure que, ouais, il n'est pas contre. Par contre, si je vois le gars qui dit « ouais, je veux bien », et puis dernièrement, on vous le reproche, on peut lire ça en discutant avec quelqu'un. On voit quelqu'un qui assume à peu près à l'avance un peu ce qui va se passer. Mais j'ai développé tout un parc de matériel qui me permet d'aller sur un site, d'aller dans une maison. J'ai fait des disques dans des masses perdues dans les Cévennes. Enfin, j'essaye à ce niveau-là de trouver le bon compromis entre l'économie de la personne, le versus artistique et aussi l'art de vivre. Ensemble quand on fait un disque, parce que faire un disque pour quelqu'un, surtout pour un jeune groupe, c'est ça peut être souvent le générateur de la fin. Hein. Souvent, après un disque, soit ça cristallise vraiment une force, mais il y a plein de premiers disques qui font que les mecs se séparent. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas la même implication. Et tout d'un coup, ça peut être hyper cruel. Et il y a certaines conditions que j'essaierai d'éviter pour que ce soit pas... Que, voilà, des fois, il suffit simplement... On habite dans un endroit où il y a trois mecs qui habitent dans la même piole. Bah, ça peut, tout d'un coup, au bout de trois heures, les mecs s'aperçoivent qu'ils n'ont rien à se dire. Donc j'essaye de concilier tout ça.
Et donc, à côté de ça, les collaborations sur la durée doivent être aussi, j'imagine, dans un autre registre assez passionnant, de travailler sur 5, 10 ans ou plus avec quelqu'un qu'on connaît, qui vous connaît, où là, on a l'impression, peut-être, enfin pas l'impression, mais j'imagine qu'on se sent plus impliqué dans le projet, même artistiquement.
Ah oui, bah ça, c'est une énorme joie. Hein.
J'ai cité Boyan Z.
Ah bah Boyan, d'abord, c'est un très très grand artiste, c'est une personne que j'admire, tout simplement. C'est une personne que j'admire. Je l'admire en tant que pianiste, je l'admire en tant que personne. J'admire la juste correspondance qu'il y a entre ces deux pôles. J'admire les gens, de toute façon, vous savez, de manière générale, je travaille avec beaucoup d'artistes qui viennent d'ailleurs, en fait, finalement. Si vous regardez, vous verrez, il y a pas mal de gars qui sont des immigrés. Déjà, je suis très attaché à ces personnes. Alors, parce que souvent, ils ont de la très très belle musique. Puis, je suis admiratif de ces gens qui parfois sont venus d'ailleurs parce qu'ils se promenaient des balles sur la gueule ou parce que ceci et qui ont appris la langue sur place et qui sont tout d'un coup se retrouvent en pole position. Je dis là, déjà, je fais waouh. Je suis parti à Buenos Aires avec le percussionniste Minino Garay. C'est des gens pour qui j'ai, ou mes amis africains au Mali, c'est des gens pour lesquels j'ai une tendresse totale et je suis prêt à donner le double trip, quoi, parce qu'il y a un truc. Mais avec Boyan, ça fait 20 ans. Hein. Bon, lui, c'est un type formidable. Hein. Bon, c'est aussi parce que chaque enregistrement est une aventure. Là, le dernier, on est parti en Italie, à l'usine Fazioli, des pianos Fazioli, et on a enregistré dans la salle de concert. Et voilà, c'est toujours des aventures, parce que Boyan, il a une caractéristique, c'est qu'il aime se mettre en danger. Vous voyez, là où beaucoup d'artistes vont vous dire « Ah bon, t'es sûr, ça existe ça, ça se fait comme ça ?» Lui, il va te dire « Ça se fait comme ça ?» Non, super, on y va. Et c'est à chaque fois un grand plaisir, surtout parce que aussi on saute des étapes. Je veux dire, il y a une confiance qui est installée, donc on peut aller plus loin.
Est-ce que même dans cette collaboration, dans cette relation, il y a une manière aussi de, c'est comme un work in progress sur
grave
sur la longueur. Donc c'est, j'imagine que
il y a plein de choses qu'on n'a plus besoin de se dire et qu'on fait, quoi. Par exemple, il y a un truc. On m'a raconté une anecdote. Je crois que c'est Clint Eastwood qui raconte ça quand il faisait des films Western Spaghetti. Il expliquait, comment il s'appelle le cinéaste?
Sergio Leone.
Il expliquait que Sergio Leone disait jamais ça tourne. Parce qu'à ce moment-là, les chevaux se redressaient et partaient et il ne pouvait pas tourner sa scène. Et on en discutait un jour avec Boyan. Par exemple, avec Boyan, je ne dis pas ça tourne, j'enregistre tout le temps. Parce qu'après, il édite. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a une vision des choses à la fois très moderne, l'outil moderne, édition, machin, et en même temps, très attaché à la qualité d'un micro, il se passionne pour ça. Donc déjà, ça me va bien. Et puis évidemment, bon, bah, à chaque fois, on essaye d'aller plus loin. À chaque fois, on essaye de faire mieux, que ça sonne mieux, que ce soit... On est allé deux fois à New York ensemble. Enfin, c'est toujours des aventures. C'est toujours des aventures. Évidemment, je souhaite à tout ingénieur du son d'avoir la chance de construire sur 10 ou 15 ans avec un artiste à travers une dizaine d'albums. Ça, évidemment, on peut pas. Il y a difficilement mieux, à mon avis. Enfin,
vous avez évoqué cette évolution, ces évolutions et révolutions technologiques qui vous ont suivi tout au long de votre carrière. Quand on commence et qu'on commence à être de plus en plus sûr de soi, de maîtriser sa technique, on a un peu, j'allais dire, presque ces trucs. Alors, le mot est peut-être dans truc, on pense tout de suite à trucage, mais est-ce qu'on arrive facilement à justement intégrer des nouvelles technologies, des nouveaux procédés, etc. Ou finalement, on se rend compte qu'on reste attaché à ces vieilles recettes, à certains micros, à certaines choses, et qu'on a du mal à pas obligatoirement d'ailleurs pour le pire, ça peut être aussi pour le meilleur, rester fidèle à des passions du passé.
Oh, écoutez, moi je pense que je cumule les deux, en fait. Bon, par exemple, les micros, moi je viens de ramener un super micro des États-Unis, j'aime bien, hein. J'aime bien aussi, je parlais de Boyan qui se mettait en danger, j'aime bien me mettre en danger. Hein. J'aime bien des fois décider, je vais faire un truc avec ça, et puis on va, et puis voilà, bien, sauf bien. Si vraiment c'est un drame. Mais j'aime bien ça. Des recettes, Écoutez, j'en ai pas beaucoup de recettes, si ce n'est des constats qui sont immuables. Un constat simple, par exemple, quand vous cherchez un studio pour faire un projet, alors les gars, ils vous disent, on a ça comme console, ouais, on a ça. Moi, vous savez, c'est vraiment pas ça. La première chose que je demande, c'est de dire, qu'est-ce que vous avez comme casque ? Qu'est-ce que vous avez comme circuit casque ? Parce qu'en général, c'est le dernier truc de la charrette, et c'est ce qui est le plus important, quelque part. Je suis convaincu, malgré tout, de certaines choses. Je pense que le plus important, c'est l'acquisition, c'est ce qui se passe à l'enregistrement. Je vous parle pas si vous faites un disque d'électro, techno, non. Mais dans un disque acoustique, désolé d'ouvrir des portes ouvertes, mais enfin, ça reste quand même l'acquisition qui est le plus important. La qualité des micros, leur remplacement, le musicien évidemment en priorité, l'acoustique. La configuration est quand même, à mon sens, extrêmement importante, de façon à avoir un fichier bien né, un peu comme un gosse, quoi, qui naît dans des bonnes conditions. Après, il peut faire du tennis, il peut faire le polytechnique, ça ira, quoi. Bon. Mais bon, voilà, je suis très attaché à ce que le musicien se sente bien quand il joue. C'est-à-dire, de plus en plus, par exemple, quand le projet le permet, quand l'instrumentation le permet, j'aime bien essayer de faire jouer les gens sans casque. Récemment, j'ai fait ça. Très proches les uns des autres. Or, ce qui m'amuse, c'est que j'ai un copain là, qui vient de finir un disque chez ECM. Il fait pareil, l'autre, la Manfred, maintenant. Mais tous les mecs... Et il annonce la veille... Je ne fais pas du tout ça parce qu'il le fait, hein, je précise. Hein, je ne suis pas non plus, je ne suis pas du tout un fan. Bon. Mais c'est rigolo de s'apercevoir qu'avec le temps, on simplifie les choses. Quand on est jeune, souvent... C'est compliqué, il faut passer par 2 milliards de trucs.
Ah, c'est ce que j'ai demandé, ce qui vous demande également, c'est ce qu'il n'y a pas la tentation quand on nage dans cette mer technologique qui n'arrête pas,
le
micro entre les anciens, le vintage et son vintage, les nouveautés, etc. Une sorte d'océan technologique qui ne s'arrête jamais, justement parfois de se noyer et que finalement on en revient à ce que disent les anglo-saxons, l'as is more, hein, le moins vaut le plus, et on essaye d'épurer. Ça vient peut-être aussi avec, j'imagine, avec l'âge et avec l'expérience.
Il y a déjà un truc qu'il faut quand même savoir, malgré tout. Vous savez, aujourd'hui, Renault va sortir une bagnole à 4000 euros, et à une époque, il y avait Jaguar qui sortait la Type E. Bon, dans le son, c'est un peu pareil. Hein. Aujourd'hui, il y a quand même une problématique qui est liée à l'économie. Donc, et de ce fait, une certaine forme d'artisanat, de création de matériel, est un peu en train de disparaître. Ce que je veux dire par là, c'est que l'époque où on faisait des microphones avec un véritable amour de la chose, un aspect artisanal, une véritable recherche, elle est un peu révolue. Aujourd'hui, on cherche plus à avoir quelque chose d'à peu près correct pour beaucoup moins cher, parce que c'est la réalité. Donc, concernant le choix de certains matériels, le vieux, c'est quand même pas mal. Ça, c'est une constance. Bon, après, il y a des trucs... Il y a quand même un amour... Il me semble quand même que l'amour du son, du beau son, c'est quelque chose qui est un petit peu en voie de disparition quand même, il me semble. Et donc fatalement, le matériel qui est fabriqué à l'époque où les gens aimaient vraiment ça est probablement de meilleure qualité, globalement.
Vous me tendez un peu une perche, est-ce que justement on peut dire que la dématérialisation de la musique, la compression, le MP3, a déséduqué, on pourrait dire, les oreilles de monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire que finalement les gens désormais sont habitués à un type de sonorité, en plus les oreilles sont en permanence agressées, que ça soit dans les restaurants, dans le métro, enfin, il y a de la musique tout le temps, et au bout du compte finalement est-ce que ça n'a pas un impact négatif justement sur la façon dont on écoute aujourd'hui, enfin
sans faire je pense en partie que oui, bon maintenant je pense en partie que oui. Bon, le problème, c'est que c'est souvent des faux problèmes. C'est ça qui me gêne le plus, en fait. Le MP3, ce fut un problème. Alors, après, il y a le problème de le transport de l'information. Bon. Moi, je crois que toutes les gens que j'ai rencontrés qui faisaient bien ce qu'ils faisaient, ce sont des gens qui sont... Aujourd'hui, on est dans un monde où, en gros, j'ai cru comprendre ça récemment assez de façon... C'est tout de suite. Je veux ma sucette maintenant. C'est comme le gosse,
instant
là.
Gratification.
Je veux pouvoir lire, je veux pouvoir aller aux toilettes et lire et voir un film. Bon, j'avoue que c'est des problématiques qui m'ont jamais traversé l'esprit. Il y a un moment pour voir des films, et il y a un moment, et puis il y a un moment toilettes. Où il est bon d'attendre de voir le film. Moi, je trouve ça bien. Je trouve que c'est bien, ça donne des bons compositeurs, ça donne des bons cinéastes, ça donne des bonnes choses. On s'est un peu éloigné de ça. Maintenant, vous voyez, bon, là, on est chez Cobuzz. Moi, je suis en train de monter un site internet aussi exclusivement haute définition. Je me dis... Il y a toujours le revers. Il y a notre petite minorité qui nous intéresse au son. J'insiste sur le côté minorité, mais je suis parfaitement conscient de n'intéresser que des minorités. Ça me va très bien. Aucun problème. Il y a aujourd'hui peut-être la possibilité surtout de pallier aux carences de la distribution du disque et de pouvoir mettre en ligne du matériel à disposition du plus grand nombre. en bypassant tout un tas d'intermédiaires. Le vrai problème, ça a été le problème de la dématérialisation. Et quant au MP3, c'est vrai que... Là, je vois les jeunes, moi j'ai des enfants, hein. C'est vrai que le son, je leur propose d'écouter la bonne acquisition, en fait, ils s'en foutent un peu. Je pense qu'il va y avoir aussi au niveau des ingé son, il risque d'y avoir un trou, là. Il risque d'y avoir une génération un peu... je pense qu'on va... Peut-être, j'espère avoir tort, mais je pense que là, on va avoir 5-6 ans un peu de no man's land, là.
Une frustration justement quand vous bouclez un projet dont vous êtes assez fier de finalement vous dire que 80 peut-être 90, je ne sais pas exactement le vrai pourcentage, des gens qui vont l'écouter de l'autre côté, vont l'écouter dans des conditions qui vont finalement éradiquer une grande partie du travail que vous aurez
accompli. Oui, à part que je ne suis pas forcément... Dieu merci, je crois que j'ai un peu la chance de travailler dans des musiques qui intéressent des personnes qui sont un tout petit peu plus engagées dans la manière d'écouter, un petit peu, je crois. Maintenant, c'est vrai que moi, quand je travaille aussi, je tiens compte de ça. Enfin, je veux dire, je me balade pas à écouter du MP3 dans la rue, mais j'aime bien. J'ai mon iPod avec mon petit casque à 15 €. J'aime bien parce que je suis pour que la musique soit accessible aussi à tous les gens. Vous savez, c'est les jeunes qui achètent les disques, me dit-on. Donc il y a bien un moment, je ne vais pas m'enfermer dans un truc. Mais c'est sûr que bon, mais j'entends dire que le vinyle redémarre, je vois qu'il y a quand même des gens qui commencent. C'est à l'image un peu de la société, il y a des gens qui commencent à en avoir un peu marre d'aller bouffer au McDo tous les jours. C'est un peu pareil, donc j'ai l'impression qu'il y a une vague de réaction minimaliste, mais qui m'intéresse et qui fait que ça me réveille un peu les papilles. Quoi. Mais c'est vrai que bon, quand je vois mes gamins qui se baladent dans la rue avec leurs copines, avec chacun un morceau de casque sur un iPod, je dis ouais, c'est pas la peine de passer 3 heures à essayer de régler une image stéréo, évidemment. Mais bon, en même temps, s'il y a 2-3 personnes qui sont heureux, ça me va. Ça me va.
Est-ce que vous avez, quand vous avez commencé, vous avez eu, est-ce que vous en avez encore, des maîtres, des personnes qui, quand vous voyez leur nom sur une pochette de disque, par des formations professionnelles ou même juste par intérêt, par amour, vous le mettez tout de suite sur votre platine, vous l'écoutez tout de suite parce que leur travail vous a toujours fasciné. Le seul nom que vous avez cité, vous avez cité Manfred Eicher. Est-ce qu'il y a d'autres noms comme ça qui vous ont... quand je parle de noms, je ne parle pas évidemment de musiciens, je parle de l'autre côté.
Oui. Oh, oui.
De la console.
Oui, il y en a, j'espère. Il y a des maîtres. Après, pour moi, il y a des grands maîtres dans le classique aussi. Mmh. Je me rappelle les ingénieurs du son de la grande époque chez Decca. Pour moi, c'est magnifique. Decca, l'oiseau lyre. Il y avait un type là, John Dunkerley. C'était super ce qu'il faisait, tout ce qu'il faisait, c'était super. Puis bon, moi, c'est intéressant d'écouter. Je conseille à tous les ingénieurs du son de s'intéresser à la musique classique et à la musique contemporaine. Franchement, c'est une nourriture extraordinaire pour réveiller les oreilles. Hein. C'est comme tout est vachement fractionné, mais c'est dommage. Bon, il y avait les gars, il y a eu évidemment les gars qui bossaient avec Eicher, Jan-Erik Konskos, il y avait le gars Lamartine Villand à Ludwigsburg. Bon, il y a le travail d'Alan Parsons, il y a Geoff Emerick. Geoff Emerick, 18 ans, bombardé ingénieur du son des Beatles. Si ça, c'est pas un trip. Non, vous avez 18 ans, vous connaissez l'histoire de Geoff Emerick, c'est extraordinaire. Il se retrouve à 18 ans parce que, avec les Beatles, le groupe numéro 1, à pouvoir expérimenter parce qu'ils ont décidé d'arrêter la scène parce qu'ils en ont marre des sonos de stade. Et en plus, il est avec le groupe numéro 1, donc il peut enfreindre toutes les règles d'Abbey Road. Il était interdit de mettre un micro à tant de distance de la grosse caisse. Il s'en fout, lui, il a de quoi payer 10 fois le studio avec les musiciens. Donc ça, c'est un nom extraordinaire. Le travail, c'est eux qui ont fixé le son de la pop d'aujourd'hui, qui est encore valable. Amusez-vous à écouter Abbey Road et après vous écoutez Radiohead. C'est très intéressant. À écouter John Lennon sur votre ordinateur, vous écoutez Free as a Bird, la chanson qui a été récupérée sur une cassette. Voilà. Et vous écoutez la voix seule de John Lennon non traitée. C'est-à-dire sans les échos, il détestait sa voix, des faits. Genre, vous écoutez ça, 5 minutes, et après vous mettez, comment il s'appelle, le chanteur de Radiohead.
Tom York.
Vous écoutez Tom York. C'est hallucinant la filiation. C'est hallucinant. Mais il y a énormément de choses qui sont aujourd'hui plus appuyées dans la production d'aujourd'hui parce qu'il y a plus de possibilités. Mais en germe, quand vous écoutez le travail qu'a fait Geoff Emerick, c'est énormissime. Tout est là. Tout est là. Le travail sur la batterie, les premiers bouclages dans Revolver. Enfin, c'est... Voilà, ça c'est un nom évidemment pour moi. C'est des dieux, quoi.
Est-ce que des sons, des sonorités de prise de son ou de production liées à des labels dans des genres différents, je ne sais pas, que ce soit Motown, Stax ou Blue Note, c'est des choses aussi qui vous ont intéressé
Évidemment, évidemment, des mecs comme Rudy Van Gelder, c'est des maîtres, c'est des gens reconnaissables, c'est des personnalités. Lui, il avait un studio, chaque musicien était à tel endroit. Après, on peut discuter de tout, mais bon... De toute façon, je veux dire, quand vous avez un mec qui fait 20 ans d'histoire d'une musique, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, ça me gêne un peu. Non, on se calme, on respecte, c'est des maîtres. Il y a aussi tout un tas de gens. Moi, j'adore un label, par exemple. Je suis un admirateur d'un label. Comment il s'appelle ce label, le New-Yorkais, là, qui fait à la fois, qui faisait le Kronos Quartet, qui fait de la musique contemporaine, qui fait Steve Reich.
Non-Such.
Ça, pour moi, alors ça c'est un exemple extraordinaire d'ouverture et d'ouverture musicale et en même temps de réussite commerciale. Ça, c'est fameux, quoi. Il y a des gens dont je n'ai pas forcément retenu le nom, mais c'est vrai que je regarde toujours. je sais pas de nom comme ça. Il y a, oui, bien sûr, il y a des maîtres. Hein.
Est-ce que vous avez la même chose? Alors, c'est vrai que, vous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous aimez et vous pouvez enregistrer un peu partout, que ce soit en termes de studio ou même en termes de lieux atypiques.
Oui.
Est-ce que vous avez, cela dit, quand même des studios en France ou à l'étranger? Alors évidemment, ça dépend, j'imagine, en fonction du projet. C'est sans doute pas la même chose si vous travaillez avec Boyan Z que si vous travaillez avec, je ne sais pas, Rodolphe Burger ou quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez quand même des alors, lieux de prédilection?
Déjà, j'ai mon studio de mixage. Qui est quand même, en tous les cas, constitué de ce qu'il me faut et qui me semble efficace. Donc ça, c'est une chose. Après, j'ai un partenariat avec un studio, Studio Sequenza, qui se trouve à Montreuil, dans lequel j'ai la moitié du piano, la moitié de la console et différents trucs, et avec une très bonne acoustique où j'aime aller. Sinon, ce que j'aime le plus, moi, c'est voyager pour un projet, vraiment. Et là, pour le coup, j'ai des excellents souvenirs de studio à Bamako, j'ai des excellents souvenirs aussi de prise de son dans une case à Madagascar, où là j'ai du matériel portable de qualité, je viens avec des nagras, des choses comme ça, où on arrive à faire des trucs extraordinaires.
C'est passionnant parce que c'est une remise en question à chaque fois, c'est une mise en danger personnelle même à chaque fois.
C'est une mise en danger, en effet. Ouais. C'est des rencontres avec des gens qui viennent d'ailleurs et souvent des excellents musiciens, si vous voulez. Je veux dire, vous vous retrouvez à Madagascar, vous allez rencontrer, là entre autres on a fait un travail récemment, mais vous allez rencontrer des musiciens qui sont absolument incroyables, qui sont absolument exceptionnels. Vous allez, le studio Bogolan aussi à Bamako, où j'ai fait des choses avec Rokia Traoré, Balaké Sissoko, avec Ali Farka. Et pourtant, c'est mal insonorisé. Ouais. Mais ce qu'on entend, c'est monstrueux. J'adore ça. J'ai rencontré aussi le patron. Par exemple, à Bamako, je rencontre un patron de studio qui est un gars qui est un mec d'origine bretonne, qui est marié avec une malienne, qui est un type super, qui a tout compris aux gens là-bas et qui a une générosité absolue et puis qui essaie de donner le meilleur. C'est des gens très impliqués. Moi, j'aime bien l'implication. Je préfère quelqu'un d'impliqué qui va me filer un micro pourri qu'un mec qui s'en fout, soi-disant qui a le meilleur micro du monde. Ça, le mec impliqué, on arrivera toujours à s'en sortir. Toujours. Et dans des situations où c'est dans des endroits un peu compliqués, où l'électricité, on a fait le disque de Rokia Traoré. On a fait un disque de Rokia Traoré, on a fait en partie à Bamako, on a fini chez moi, et il a été fait en partie à San Francisco, chez Lucasfilm, à Skywalker. Je vais vous dire, c'est assez marrant. À Skywalker, il y a eu deux coupures d'électricité définitives, ils ont été obligés de changer de studio. À Bamako, ça s'est passé. C'est drôle quand même. Parce qu'en Californie, ils ont un système électrique qui est un peu. Ça merde un peu. Donc, comme quoi, c'est pas toujours l'endroit le plus rutilant, le plus impeccable qui vous donnera le meilleur résultat. Moi, j'aime bien quand il y a une âme, et puis les musiciens. Le fait qu'on vive avec eux en mettant les pieds dans l'eau et en prenant le taxi avec eux le matin depuis l'hôtel, ça crée un lien. À Kinshasa, quand le studio, tout d'un coup, les gars, ils ont toujours vécu que des galères, on arrive à solutionner deux, trois trucs et que les gars, ils se retrouvent en cabine, entendent leur musique. Mais là, vous êtes frangin. Hein. Vous êtes frangin tout de suite. C'est plus pareil, là. Jamais vous vivrez ça ici. Jamais. Tout d'un coup, tout est possible. Et ça, c'est des moments émotionnels qui sont super forts, et ça compte autant, hein, à mon sens.
Vous avez dit en début d'entretien que vous aimiez démonter votre magnéto quand vous étiez...
Mon petit électrophone.
Ouais. Vous avez mis les mains dans le cambouis à plusieurs reprises, vous avez fabriqué, vous avez participé à des...
Oui, un petit peu. Je suis pas un très grand technicien du tout. J'ai fabriqué pas mal de paires d'enceintes, des trucs comme ça.
C'était pour vous amuser, c'était plus un hobby ou il y avait vraiment une volonté d'arriver à quelque chose.
Non, c'est une passion. C'est une passion. Ça me plaît. Après, c'est une histoire d'avoir le temps de le faire. Mais pour mon studio de mix, le gros système, je l'ai fait. Je suis plutôt assez content de l'avoir fait. Et puis c'était un kiff. Mais j'aime bien. Avoir une idée en tête et savoir éventuellement trouver une personne vraiment compétente et ensemble faire quelque chose. La notion de partage. Moi, je suis un peu babacool en fait, en vérité. Je suis plus babacool que punk. J'ai bien aimé les punks, ceci, c'est un truc important. Mais au bout d'un moment, après avoir tapé sur sa mère à coups de latte, bon, on est peut-être bien content d'en venir un tout petit peu, un truc un peu plus paisible. Donc j'aime bien ça, le partage dans la création technique, mais je ne suis pas hyper compétent. Donc je ne passe pas ma vie avec un fer à souder. Non.
quand on est, vous avez dit tout à l'heure, c'est important d'écouter de la musique quand on est ingénieur du son, parce que malheureusement la majorité ne le fait pas. Est-ce qu'on n'a pas aussi le revers de la médaille, c'est d'avoir une sorte de déformation professionnelle dès qu'on écoute un son, quel qu'il soit, une musique? Malheureusement, une partie de soi essaye de décrypter la partie presque technique que la partie juste artistique et musicale. Ou jamais.
En ce qui me concerne, pas trop. Évidemment, si j'entends parler d'un disque où je lis des articles, où j'entends dire que la production est ceci et cela, je vais me l'acheter.
Donc là, c'est vraiment une démarche professionnelle.
Oui, c'est une démarche professionnelle, mais qui est très, très minimaliste. Vous savez, moi, ce qui m'importe le plus, c'est vraiment la musique. Je vais préférer de loin un disque prétendument mal fait, avec vraiment une magie, que le machin...
Tester les enceintes. Et qui...
Ouais, j'aime bien les deux. Bon, si le machin pour tester les enceintes, en plus, est fait... Le problème, si vous voulez, c'est que les machins pour tester les enceintes, pour certains d'entre eux, je ne parle pas de ce qui se passe ici, par exemple, où là, il y a... Enfin, en tous les cas, avec B-Jazz, où il y a une synthèse qui est intéressante. Mais les disques audiophiles sont souvent musicalement assez inintéressants. Et franchement, alors là, pour le coup, je préfère... Mais je suis... Non, moi, j'ai toujours autant de plaisir à écouter un disque. Évidemment, je fais le lien, mais ça ne me fait pas souffrir, ça ne me pose pas de problème. Hein. Si j'entends un truc qui est vraiment absolument génial. J'aime bien aussi les trucs pour leurs défauts. Je ne suis pas à la recherche du son. J'écoute les choses dans la globalité. En général, les musiciens de jazz, ils écoutent, ils vont vous dire, j'aime bien ce disque, la contrebasse sonne bien. Là, par contre, le piano, moi, j'ai plus une écoute comme l'écoute des gens qui écoutent de la pop ou du rock, c'est-à-dire global. Si pour servir la musique, la contrebasse doit sonner un peu moins bien et moins définie, très bien pour moi. Rien ne me gêne plus que d'avoir un suréclairage sur un élément qui n'est pas très bien. Vous voyez, comme un mec qui fait un film, si l'acteur n'est pas terrible, il va peut-être réviser un tout petit peu son scénario, quoi, si ça ne prend pas. Voilà. Donc, si la musique est bonne, en général, je suis curieux, j'écoute énormément de musique. C'est vrai que des fois, les gens me disent « t'es pas fatigué ?» Non.
Aya kofile mali de nuna Mali de nun toye babani bang Mali nyamoyo Mali de nun toye kobani bang Mali de nun yo Mali de nun toye kobani bang Mali nyamoyo Mali de nun toye kobani bang Mali de nun toye babani bang Mali nyamoyo Mali nyamoyo Oyo kofile mali de nun Oyo kofile mali de nun Oyo kufile mali deru no. Malide nun toye babani bam. Malide nun toye kobani bam. Malinya moyo. Aya kofile malide nun. Malinya moyo. Malinya moyo. Aya kofile malide nun.
Question horrible de choisir dans vos 1000 enfants, alors peut-être pas, je sais pas, 1, 2, 3 albums comme ça qui vous passeraient par la tête, qui évidemment vous comblent artistiquement, donc sont vraiment des bons disques, et en plus sur lesquels vous avez pu mettre votre petite touche personnelle. Est-ce qu'il y en a 1, 2, 3 comme ça qui vous restent un peu
Je serais tenté de vous dire un truc simple, mais en même temps c'est vrai, je serais tenté de vous dire le prochain. Mais c'est vrai en plus. Je suis assez content du travail qu'on fait avec Boyan depuis 15 ans. Vous savez, mais c'est un peu comme la photo. Il y a des personnes qui vont s'attacher à une photo. Ils vont prendre une photo. Moi, qui suis un petit photographe amateur, le truc qui me touche, c'est une photo qui suivie d'une autre, et qui raconte une histoire avec l'imperfection de l'une, mais qui raconte une histoire. Et ça,
vous l'avez avec Boyan Zen.
Je l'ai avec Boyan. On a progressé ensemble. On en parlait, il me disait... Il y a 12 ans, on a fait son premier disque de piano solo. Qui est un très beau disque. Et même, moi, je suis rentré à Paris. On avait fait ça au théâtre de Coutances, là où il y a le festival, avec des gens... le festival, comment il s'appelle, à Coutances, le festival de Coutances. Les gens sont super. Ils nous avaient mis à disposition le théâtre. On avait toujours des très bons pianos à ce niveau-là, par contre. J'ai jamais erré sur un piano merdeux. C'est toujours des très bons pianos avec des bons accordeurs. Et c'est un disque, je me souviens que quand j'étais rentré à Paris, Boyan lui était reparti avec un avion, il est toujours par Mons et par Vaux. Il m'avait appelé, je lui ai dit, écoute, j'ai réécouté. Je lui ai dit, tu sais, ce disque, on va en parler encore dans 20 ans. Ce qui est vrai. Je ne dis pas qu'on en parle plus que Madonna. Non. Mais dans cette petit monde-là, on en parle. Et là, récemment, il me disait, je ressors l'ancien et... On en parle, et on parle du prochain, là, qui sort en mars, chez Universal, et on constatait avec plaisir qu'on avait avancé. Il me dit, bah voilà, tu vois, il y a 15 ans, je dis, c'est vrai, il y a 15 ans. Il y a 15 ans d'expérience en plus. D'aucuns pourraient dire, il y a 15 ans de surdité en plus, non. Non, il y a vraiment 15 ans de travail en plus, de progrès de chacun, de bons questionnements, d'évolution du matériel. Et puis voilà, ça c'est un truc qui me... Le disque Xenophénia, c'est une satisfaction, parce qu'il a souvent été considéré comme étant un disque qui sonnait exceptionnellement bien, et c'est en plus un disque où... Vous savez, il y a des fois des gens qui vous parlent de disques qui sonnent super bien, et vous trouvez que c'est pas terrible. Et puis il y a des trucs que vous trouvez super, puis les gens font « Ah bon ?» Là, c'est connecté. En plus, il a eu sa réussite, je dirais, de succès d'estime, en tous les cas. Lui, c'est un chemin particulier que j'aime bien. Il y a le travail avec Henri Texier, j'ai beaucoup bossé avec Henri Texier. Mmh. On essaye de progresser aussi, c'est un mec que j'aime beaucoup. Un grand musicien, puis j'aime beaucoup le citoyen Texier. J'aime bien ce mec-là, grand monsieur.
Et la même chose, un petit peu, j'allais dire... Ça dépend, j'imagine, évidemment, de la situation, du lieu, de l'artiste, etc. Est-ce que vous avez un couteau suisse, une lampe de poche, quelque chose qui vous sorte de doudou, quelque chose que techniquement, un micro, un casque, quelque chose, des petits outils qui restent quand même, malgré tout, malgré les évolutions technologiques, malgré, qui restent toujours avec vous, quoi. Vos porte-bonheur, est-ce que vous avez quelques...
Moi, j'ai mon parc micro perso. Hein. Où que j'aille, j'amène mon parc micro. Je suis vraiment un malade mental. Les gens me regardent. Que j'aille à Davout. Bon, maintenant, aujourd'hui, si vous allez dans un pays étranger, ça devient compliqué parce que avec les flics et tout, le moindre neumann à la tête d'une bombe. je suis parti à Buenos Aires. Je suis parti avec quelques micros auxquels je tiens. Bon.
Ces micros, par exemple
J'avais la réédition du M49 fait par Fli, je sais pas comment on propose, qui est vachement, qui est très beau. C'est très beau. Du reste, j'ai appris que c'était la marque qui, quand il y a des gars qui collectionnent des Neumann qui ont besoin de refaire des pièces, Neumann s'adresse à eux. Donc c'est vraiment sérieux. Il y a mes vieux shops à lampes. Dont j'ai fait refaire les alimentations par un type en Allemagne qui sont quand même absolument fabuleux. Et c'est vrai que quand je les avais achetés d'occasion, le mec m'avait dit, c'était un vieux preneur de son, il m'avait dit, vous verrez, ça n'a rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Mais le fait est que merde, il avait raison, quoi. J'ai fait des tests, il avait raison, il y a des choses comme ça. Et puis des fois, j'ai des petits trucs aussi, des fois, j'ai des petits DPA qui se mettent un peu à certains endroits que j'aime bien, que souvent, c'est des gars plutôt dans le cinéma qui ont ça, donc j'aime bien avoir ça avec moi. Mais je reviens toujours au même truc. Hein. Sinon, je m'assure en priorité que vraiment, il y ait moyen de faire une balance casse par musicien. Ça, c'est hyper important. Et s'il n'y a pas, je vais venir avec des préamplis, je vais m'interroger longuement avec l'assistant ou l'ingénieur du son de la maison, savoir si on peut installer un système qui permette d'avoir 6-5 balance casse stéréo. Parce que je sais que là, les mecs vont bien s'entendre et vont bien jouer. Si les gars souffrent, vous pouvez toujours avoir le meilleur micro du monde, ça ne sert à rien.
Alors, vous avez dit que dans vos projets préférés, il y avait le prochain. Alors, c'est quoi les projets sur lesquels vous travaillez actuellement ou ceux sur lesquels vous allez travailler d'ici quelques semaines ou quelques mois ?
On vient de finir le prochain disque de Boyan. On est allé enregistrer chez Fazioli et puis on vient de finir les mix. C'est vraiment très beau. Je viens d'enregistrer hier aussi. Alors, je suis en train de monter un site à vocation de production HD, c'est-à-dire imaginer des projets soniques et musicaux qui soient pensés HD dès le départ, c'est-à-dire sans limitation, sans en essayant d'aller au maximum du son. Donc j'ai confié entre autres à un extraordinaire contrebassiste qui s'appelle Bruno Chevillon, avec qui on est allé dans un temple, dans une belle acoustique pendant 2 jours. Je lui ai dit, voilà, moi ce que j'aimerais c'est que tu penses de la musique où tu me livres tout ce que la contrebasse peut faire, le grave, les aigus, c'est magnifique. Je viens de finir dans le même genre, un peu différent, mais sur le même site. Hier, je finissais la moitié des prises avec un pianiste argentin qui s'appelle Gustavo Bettelmann. Sinon, je viens de finir pour Mohamed, le disque de Guillaume de Chassy là, que j'ai mixé, qui sort, je crois, prochain
janvier.
Sort, c'est ça, ouais. J'essaie de rassembler mes esprits.
Vous faites pas mal de choses.
J'ai fait un disque aussi avec quelqu'un que je travaille depuis longtemps, qui est un batteur qui s'appelle Christophe Marguet. On doit aussi. Je dois finir ce disque que j'ai fait à Buenos Aires aussi avec Mino Garay. Et ça, c'est c'est la situation que j'adore. On est parti là-bas pendant 15 jours dans un studio extraordinaire, le studio mythique de Buenos Aires. Comment il s'appelle, mon Dieu ? C'est là où ils sont. Enfin, je veux dire, quand vous rentrez là, vous avez tous les fantômes, Mercedes Sosa, tous les grands du tango. Pourtant, je ne suis pas un fan de tango, hein. Mais une acoustique extraordinaire, un parc micro. Alors là, vous avez le parc micro de
magasin de jouets, quoi, pour vous.
À 50 ans, le gars qui tient le studio, il a commencé comme coursier dans le studio aujourd'hui. Il est patron du studio, ça fait 52 ans qu'il y bosse. C'est quand même pas mal. Et alors bon, il y a ça à finir, ça c'est un gros projet, parce que c'est plus c'est la chanson, c'est produit. Donc je sais que je dois faire un groupe que je ne connais pas. C'est mon ami Raphaël Jeunin, avec qui masterise tous mes projets aujourd'hui, avec lequel on monte ce site, qui connaît un groupe de pop qui veut me faire rencontrer parce qu'il voudrait absolument que je finisse le projet. Je dois les rencontrer. Donc je suis vierge.
Vous n'arrêtez pas. On sait bien.
Vous savez, j'essaye. D'abord, j'ai peur quand il se passe rien. Et puis, je suis un peu. Vous savez, je crois que un métier comme celui que je fais, ça tient un petit peu aussi d'un truc un peu. Vous savez, c'est un mec qui fait de la natation, s'il s'arrête de nager, il est dans la merde. Hein. Il y a un truc aussi d'entretien des choses, quoi. D'entretien de sa sensibilité, d'entretien de son savoir-faire. Pour moi, c'est important d'avoir la main à la pâte assez régulièrement, le plus régulièrement possible, pour entretenir la chose, pour progresser. Sinon, on se. Voilà.
Bah Philippe Tessier-Ducron, on vous souhaite bon entretien et merci.
Merci à vous, super.
Where it began, I can't begin to know when, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd believe you'd come along? And hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. Caroline, good times never been so good. I've been inclined to believe it never would, and now I look at the night and it don't seem so lonely. Fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? And warm, yes, touching one. Reaching out, yes, touching me, yes, touching you, sweet Caroline, good times never seem so good. I've been inclined to believe never would. Sweet Caroline, good times never seem so good. I've been inclined to believe it never would.
Rencontre par Marc Zisman.